va tout de suite parler de l'équipe de France qui a joué samedi contre la formidable équipe des îles Féroé qui a gagné 5-0. Alors, donc tout de suite, on va commencer avec l'équipe de France qui joue donc mercredi, qui joue contre l'Autriche au Stade de France. Selon vous, quel système de jeu va adopter Domenech? Est-ce qu'il va tout chambouler, même au niveau des joueurs titulaires, ou est-ce qu'il va garnir la ligne de conduite, une certaine ligne de conduite, une certaine homogénéité dans le groupe, dans l'équipe type, malgré que l'équipe de France soit d'ores et déjà sûre de participer au barrage?
Bah déjà, comme on sait, Diarra s'est fait suspendre. Lassana, il a fait le petit malin, il a fait exprès de se prendre son petit carton jaune, histoire de souffler un petit peu pour ce match. Donc déjà, tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas Lassana. Donc est-ce que Domenech va passer avec un seul récupérateur à Alou Diarra, ou faire le crime de mettre Alou Diarra plus Toulalan au milieu? Je ne pense pas. Donc soit il met Toulalan tout seul, soit il met Alou Diarra tout seul. Donc, et de ça, je pense, dépendra le système de jeu. Mais sinon, je le vois bien repartir avec le même système que contre les îles Féroé, un 4-4-2. Parce que je pense que Domenech aura dans l'optique de repartir, de faire du match contre l'Autriche un véritable match de préparation en vue des barrages. Donc de ce point de vue-là, je pense pas qu'il y aura trop de changements au niveau du système de jeu. Après, au niveau du choix des hommes, je pense pas non plus qu'il y aura de grands chamboulements. Est-ce qu'il va donner sa chance à certains joueurs? J'en suis pas vraiment sûr. Je pense que vraiment Domenech, il aborde ce match comme un véritable match de préparation, un match important en vue des matchs de barrage. Donc à mon avis, il n'y aura pas de grand chamboulement.
Je suis d'accord avec toi. Je pense que il va garder cette ligne de conduite et associer. Bon, au niveau de la récupération, je pense voir donc Alou Diarra associé à Toulalan vu l'absence de Lassana Diarra. Et comme tu l'as dit, au niveau du choix des hommes, je vois pas Domenech faire de fantaisie, c'est pas son genre. Donc je vois pas changer complètement l'équipe, même le système de jeu, pour préparer au mieux les barrages de novembre. Oui, Fabien.
Ouais, mais Roméo, donc tu m'as dit, toi, pour toi, tu penses que Domenech va titulariser Toulalan et Alou Diarra? Parce que moi, je pense que ça serait aussi, et ça j'ai oublié de le souligner, mais ça serait aussi peut-être la possibilité de voir Sissoko titulaire d'entrée, dans un rôle plus de relayeur comme il sait le faire. Depuis le début de la saison avec Toulouse, il montre quand même ses qualités offensives. Donc pourquoi pas avoir un petit Toulalan Sissoko ou un petit Alou Diarra Sissoko, même si je pense plus vers un Toulalan Sissoko. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bah. Et écoute, j'avais complètement, pour te dire, oublié la présence de Sissoko dans le groupe, mais maintenant que tu le dis, pourquoi pas? C'est un mec qui a un autre rôle qu'Alou Diarra, ça ferait moins copier-coller par rapport à Toulalan. Il aurait plus un rôle de relayeur, tout en ayant un bon apport au niveau de la récupération, donc pourquoi pas. Sissoko, c'est un joueur que j'aime bien. Je pense qu'il a le choix, là. Il a le choix entre Sissoko, entre Alou Diarra, donc à voir.
Bah ouais, je voulais revenir sur ce que t'as dit, Fabien. T'as dit que tu pensais que Domenech allait justement suivre la même ligne de conduite, justement en vue des barrages. Mais ce que tu sembles oublier, c'est que l'un des principaux acteurs du secteur offensif de l'équipe de France, c'est Yoann Gourcuff. Et Yoann Gourcuff, quand on l'utilise, on le met numéro 10. Et on a vu contre les îles Féroé qu'on est plutôt passé dans un 4-4-2. Donc suivre cette ligne de conduite en vue des barrages, ce serait un peu trompeur, vu que quand Gourcuff reviendra de sa blessure, nous allons sûrement repasser en 4-3-3, 4-5-1. Pour pouvoir mettre Gourcuff en numéro 10. Donc je pense plutôt qu'il va pas l'aborder justement comme une répétition, mais plus comme un match semi-amical, on va dire, où il va faire jouer les joueurs et en espérant voir une victoire pour bien conclure cette phase de poule qui a été décevante dans l'ensemble quand même.
Et donc pour toi, tu penses que la meilleure des solutions sur ce match-là, enfin tu penses que Domenech va donc repasser en 4-3-3, mais va essayer en fait, va jouer dans le système qu'il va mettre avec le retour de Gourcuff. Alors que moi, justement, enfin, avant de te laisser répondre, moi, j'ai quand même vu des avantages à ce 4-4-2, avec surtout des vrais ailiers, hein, comme je l'ai, comme mes vertus à souligner. En France, on a souvent trop peu d'ailiers qui jouent en équipe de France. Là, on a vu que l'apport de Govou sur son côté droit, il était franchement intéressant. Parce qu'on a vu qu'il a multiplié les débordements, les centres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était relativement nouveau ces derniers temps. Enfin, qui était relativement nouveau par rapport au dernier match de l'équipe de France où il y avait véritablement bouchon dans l'axe de l'attaque. Donc, moi, franchement, de mon point de vue, je pense que sur ce match contre l'Autriche, ça serait sympa de revoir un 4-4-2. Et pourquoi pas Malouda sur le côté gauche, mais ça c'est vraiment subjectif. Malouda, Govou, vraiment deux ailiers. Après, c'est clair que comme tu l'as dit, si on se place dans l'optique d'un retour de Gourcuff et donc de mettre en place plus un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, c'est clair que là je pense que Domenech pourrait repasser en 4-3-3. Je trouve ça dommage parce que là le 4-4-2 quand même, même si ce n'était que les îles Féroé, l'animation offensive était beaucoup plus sympa que les matchs précédents.
Oui, enfin, ce que je voulais te dire, c'est que il va sûrement repasser en 4-4-2 encore mercredi, mais pas dans l'optique d'un barrage. C'est dans la continuité de ce qu'il a fait samedi, mais pas forcément vu des barrages, vu qu'il repassera, à moins d'une grande surprise, il repassera en 4-5-1. Donc, parce que oui, moi, pour pas te mentir, le 4-4-2, certes, c'était les Féroé, certes, c'était à domicile, mais on a rarement vu un match de l'équipe de France avec autant d'animation offensivement. C'était assez étonnant d'ailleurs. Il y avait des combinaisons, il y avait des occasions, il y avait des frappes au but. On a cru un peu rêver. Mais pour moi, ce match contre l'Autriche mercredi n'est pas une répétition. C'est un match banal, on va dire.
Donc t'es un peu en contradiction quand même avec ce que dit Domenech, qui est plus là en train de nous dire que c'est vraiment un match de préparation vu des barrages. Après, ce que je voulais dire, c'est que justement, on a vu une animation offensive beaucoup plus intéressante que lors des matchs précédents, et moi je pense que c'est véritablement dû au système de jeu, et surtout à un retour, même si statistiquement parlant, ça c'est pas forcément... ça n'a pas forcément été très visible, mais l'apport de Govou, avec justement sa disponibilité sur le côté droit et donc la possibilité d'écarter le jeu, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner et qu'il va falloir retenir, et que ça serait sympa de le voir à l'avenir en équipe de France, parce que c'est ce qui a vraiment pêché à l'équipe de France sur les matchs précédents. Je pense surtout au match contre la Roumanie, hein. Quand on joue un bloc qui est très regroupé dans sa moitié de terrain, il faut écarter sur les côtés, on l'a souvent répété. Bien souvent, l'équipe de France n'avait pas ce genre de joueur capable justement de déborder sur les côtés lors de ces matchs-là. Là, justement, contre les Féroé, on en a eu un. Govou, ça serait bien d'en avoir deux par la suite avec Govou et Malouda. Voilà.
D'accord. Merci tous les deux. Donc ces deux options qui s'offrent à Domenech, faire tourner, gérer un peu la forme physique des joueurs, ou alors mettre une équipe quasiment type pour préparer au mieux le match contre les barrages contre une équipe qui est d'ailleurs toujours inconnue. On va parler des barrages, mais juste avant, j'aimerais vous poser une question par rapport donc au gardien de but, Lloris, Mandanda, Carasso, peut-être, vous voyez.
Je pense.
Alors pour moi, très sincèrement, je pense que quand même Domenech va pas revenir sur son option de mettre Lloris numéro 1. Donc Mandanda était titulaire dans les buts. C'était dû au fait de l'expulsion de Lloris contre la Serbie. Donc moi, je pense que Domenech va poursuivre. Va poursuivre d'accorder sa confiance à Lloris, et puis au vu des performances en club, même si Mandanda n'a pas fait forcément d'erreurs depuis le début de la saison, d'erreurs flagrantes, quand même on a pu voir un Lloris décisif à plusieurs occasions. Donc pour moi, la logique ferait que Lloris est numéro 1 de l'équipe de France.
Ouais, c'est la même pour moi également. Sur le championnat, on a vu quand même un Lloris plus rassurant que Mandanda, à mon goût. Après Carasso, il a même pas besoin de l'intégrer dans cette concurrence parce que il enchaîne des performances plus difficiles les unes que les autres chez les Girondins. Donc ouais, Lloris, on va pas lui reprocher cette sortie hasardeuse pour remettre Mandanda dans le bain. Mandanda, il a eu sa chance longtemps. On a décidé de la donner à Lloris maintenant. On va pas de suite réinstaurer une rotation, ce serait assez idiot. Et c'est un bon match pour faire revenir Lloris justement contre l'Autriche. Il va pouvoir reprendre ses marques. Et ça peut être un match important pour lui.
Oui, exact. Moi, à l'instar de vous, je vois aussi Lloris reconduit dans le cage. Après, bon, moi, bien qu'étant marseillais, je préfère voir Lloris. Mandanda qui, en ce début de saison, n'est pas très rassurant, notamment donc dans son péché mignon, hein, les sorties aériennes lors des corners, lors des coups francs, où il reste collé sur sa ligne. Voilà, je préfère voir Lloris, que je trouve plus sûr que Mandanda. Après, c'est mon avis. Voilà pour les gardiens, messieurs. On peut parler des barrages tout de suite, des barrages pour l'équipe de France. Donc les quatre équipe possible, donc il y a l'Ukraine, l'Irlande, donc l'air, la Bosnie et la Slovénie ou la Slovaquie en fonction d'un des deux. Donc c'est la Slovaquie qui est en ce moment première du groupe. Donc je pense que ça serait mieux la Slovénie. Je répète, hein, l'Irlande, l'Ukraine, la Bosnie ou la Slovénie ou la Slovaquie. Qu'en pensez-vous, messieurs? Qu'est-ce que t'en penses, Fabien, par rapport à ces 4 possibles, voire 5 possibilités?
C'est sûr que quand on regarde sur le papier, on se méfierait peut-être plus de l'Ukraine, avec sa star Shevchenko. L'Ukraine qui vient de taper quand même l'Angleterre, ce qui n'est pas rien, 1-0, même si l'Angleterre était déjà qualifiée pour le Mondial. Mais après, j'ai un peu envie de dire, comme ce qui se dit ces derniers temps, enfin depuis qu'on sait que la France est en barrage, que l'équipe bosniaque, la Bosnie... c'est une équipe peut-être un petit peu sous-cotée, en tout cas une équipe qui a réalisé des très bons éliminatoires. Je crois qu'elle a marqué autant de buts dans ses éliminatoires que l'Espagne jusqu'à présent. Il y a des bons joueurs, hein, comme Pjanic, Spajic, et puis je crois Deco aussi. Donc Misimovic également. Oui. Donc voilà, il y a tout un tas de bons joueurs, de bons techniciens. Donc je pense que c'est une équipe, quand on connaît notre relative faiblesse sur coup de pied arrêté, je pense qu'on peut trembler devant une telle équipe. En tout cas pour moi, c'est l'équipe à éviter. Après l'air, on se souvient du fameux match importantissime avec le retour notamment de Zidane, etc. Le but de Thierry Henry pour aller à la Coupe du Monde 2006. Donc pourquoi pas un bis repetita, même si c'était pas un match à l'époque de barrage. Et sinon, comme tu l'as dit, Slovénie ou Slovaquie, je pense que c'est soit l'un soit l'autre, mais ça serait pas mal de tomber sur Slovénie ou Slovaquie. En tout cas, ça serait le tirage le plus simple. Enfin, c'est ce que je pense.
Je te suis. Je te suis aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Edouard?
Ouais, je vais te suivre aussi. Je pense que l'Ukraine, au contraire de la Bosnie, je pense que l'Ukraine est un peu surestimée. Tout tourne autour de Shevchenko, qui, quoi que l'on dise, est en déclin. C'est pas le Shevchenko qu'on connaît, le Shevchenko du Milan qu'on connaissait, fantastique. C'est un Shevchenko vieillissant. Et personnellement, non, j'ai pas peur de cette Ukraine. Enfin, la France ne doit pas avoir peur d'aucune de ses équipes, d'ailleurs. Être serein.
Logiquement.
Moi, l'équipe qui me fait peur, c'est l'Irlande. Parce que l'opposition entre Domenech et Trapattoni, les deux extrêmes. Hein, c'est...
Oui. C'est clair que niveau tactique, je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible entre un mec qui fait tous ses changements à la même minute et un autre qui a la culture tactique... propre à son pays d'origine, donc c'est clair que ça peut faire peur, mais quand même sur le papier, je pense que la Bosnie est vraiment l'adversaire qu'il faut éviter pour l'équipe de France. Mais bon, après comme il faut quand même se le répéter, l'équipe de France, quel que soit l'adversaire, doit être consciente de ses forces et surtout doit l'aborder en patron, hein, véritablement imposer son jeu, imposer son style de jeu. Et normalement, franchement, on doit passer au Mondial, à la Coupe du Monde. Si la logique est respectée, on passe. Hein. Déjà, on ne doit pas être à cette deuxième place, on devrait être premier. On est deuxième, maintenant il faut assumer. Quoi.
Voilà. Merci messieurs, donc voilà, je pense qu'on est un peu tous d'accord, on est tous du même avis. La Bosnie, ça serait bien d'éviter la Bosnie, et pourquoi pas la Slovénie, on dirait pas. Voilà, on va pouvoir tout de suite passer à la Ligue 1. À la Ligue 1 avec un petit pêle-mêle de l'actualité footballistique qui touche la France et la Ligue 1 qui s'est passé donc aujourd'hui.
Radio Génération Soccer. Radio.
Voilà, Génération Soccer's Radio, tout de suite l'actu Ligue 1 de la journée. Donc Fab, qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui?
Bah déjà, l'information principale, et quelle information? Donc on avait Antoine Comboiré et Christian Gourcuff qui étaient donc convoqués devant le Conseil national de l'éthique, suite, on va dire, aux dérapages verbaux des deux hommes, après un fameux Lorient PSG, on avait un Makelele qui avait quand même réussi à castrer, je sais plus quel joueur, mais je crois que c'était Mbouemba. Et donc derrière, Gourcuff qui avait fait des déclarations sur Makelele, comme quoi il était fini pour le foot. Et derrière, Comboiré qui défendait son joueur en disant que Gourcuff ne méritait que des claques dans la gueule. Donc voilà, la sanction est tombée. Elle est un peu ridicule, moi, je trouve, puisque eh bien les deux personnages devront chacun participer à une action pédagogique organisée par les ligues régionales dont ils dépendent. Donc voilà, voilà une petite, on va dire, une petite sanction, une sanction nette, on va dire.
Voilà, c'est assez ridicule.
Mais voilà, ça prouve encore une fois le faible intérêt de ce Conseil national de l'éthique, dirigé, il faut le rappeler, par le très célèbre Dominique Rocheteau.
Voilà. Et donc, en parlant de Dominique Rocheteau, sais-tu que Arles Avignon va très certainement conclure un partenariat avec Manchester City? Ça n'a aucun rapport, mais voilà pour notre petite info.
C'est pas forcément une très très bonne nouvelle pour le foot français, parce qu'on peut penser que Pierre Lavignon, eh bien, forme de grand talent, il ne resterait pas très longtemps en France. Donc, voilà. Après, sinon, une autre nouvelle, bah, c'était justement le retour, on va dire, bienvenu d'Hilton, hein, de blessure. Bon, on sait qu'il a, je crois qu'il a joué en amical contre Nîmes. Et puis là, bah, il semble opérationnel pour la prochaine journée Ligue 1. Donc voilà, je pense un retour bienvenu, bah, pour l'équipe de Didier Deschamps, pour l'Olympique de Marseille, en sachant qu'on a quand même une charnière centrale, une charnière, puisqu'on ne dit pas charnière centrale, une charnière Heinze Diawara, qui a montré ses limites lors des derniers matchs. Donc voilà, pourquoi pas l'alternative Hilton.
Exactement, on va en parler tout à l'heure, en parlant de l'OM. Autre info dans Louis Attaque sur RMC, Keita a un peu taillé l'OL en disant « Quand je n'étais pas présent au club, on parlait dans mon dos, beaucoup de gens ont raconté des histoires pour moi, il valait mieux que je m'en aille. » Oui, on peut dire que c'était vraiment la bonne décision pour Kader Keita de s'en aller. Voilà.
Et je pense que du côté de Lyon, on l'a déjà oublié, hein, mais bon. Ça,
je après, pense sinon, que oui.
Ouais. Grosse dope Keïta nous dit Dan, bah, c'est clair que je crois que, eh bien, l'ami Abdelkader n'avait pas fait grande impression du côté, eh bien, de l'Olympique Lyonnais. Sinon, la déclaration du jour, elle est signée d'un Parisien, ça ne s'invente pas. Elle est signée Stéphane Sessegnon. Je dois être plus intelligent. Ah bon? On s'en doutait. En fait, il a déclaré, je sais pas si c'est sur le site du PSG ou dans le Parisien, qu'en fait, eh bien, il devait mieux gérer sa frustration, que c'était un joueur nerveux, et que justement, eh bien, parfois, quand les choses ne se passaient pas, eh bien, comme il l'aurait souhaité, il avait tendance à péter les plombs. Bon, ça, on a pu le remarquer, notamment contre Monaco, avec un véritable attentat sur Adriano. Donc voilà, c'est Seignon qui semble enfin avoir compris, avoir pris conscience de ses problèmes d'humeur. C'est déjà pas mal.
Voilà, et d'ailleurs, toujours en Ligue 1, Blaise Matuidi a prolongé son contrat de 2 ans avec la SSE jusqu'en juin 2013. Il a déclaré être très heureux et très fier. Bon, en même temps, il n'allait pas exprimer sa déception. Sur le site internet de Saint-Etienne, il a dit que c'était une grande satisfaction pour lui de prolonger avec la SSE, blablabla, blablabla, voilà. Voilà, donc pour Blaise Matuidi qui prolonge jusqu'en 2013 à la SSE.
Et donc une dernière, en tout cas pour ma part, donc c'est pas véritablement une actu Ligue 1, mais c'est une actu ancien Ligue 1. Et oui, et c'est important de le souligner, Gabriel Obertan vient enfin de revenir, en tout cas de fouler les pelouses du côté de Manchester United, puisqu'il faut le rappeler, qu'il était quand même arrivé blessé. Il a signé blessé pour 4 ans à Manchester United, donc il est enfin remis de ses petits pépins physiques au dos, et il va donc évoluer ce week-end avec la réserve de Manchester United. Donc voilà une petite information. Et donc, à quand justement, Obertan en lieu et place de Giggs? À mon avis, ça risque pas d'arriver de sitôt.
Voilà. Et donc une autre petite info, Roland Courbis. Le nom de Roland Courbis, donc ça circule du côté de l'OGC Nice, il serait pressenti pour devenir conseiller des administrateurs du club, voilà, au niveau du sport. Dernière petite info, ça concerne pas du tout la France, c'est à l'étranger, à l'Espagne. C'est la FIFA Pro qui a écrit à la FIFA et à la Commission européenne pour dénoncer, je cite, le contrat de Lionel Messi, trop long d'après les règlements de la FIFA. La durée d'un contrat doit varier entre 1 et 5 ans. Or, il doit se terminer en 2016. Voilà.
Aussi une petite info internationale, on va dire, avec justement la durée d'indisponibilité d'Ivica Olic, donc l'attaquant du Bayern Munich, et bien qui est estimée à 6 semaines, donc un petit coup dur hein, pour les Bavarois, qui ne sont pas forcément bien partis dans cette édition 2009-2010 de la Bundesliga.
Merci. Voilà donc pour les petites infos, le petit pêle-mêle d'infos qui a touché un peu la planète française de Ligue 1, la planète Ligue 1 et donc la planète étrangère avec donc la Bundesliga, le contrat de Lionel Messi. On reste en Ligue 1, on va pouvoir parler d'ailleurs, on va faire un petit bilan de certaines équipes qui sont en haut du classement là en ce moment pendant cette trêve internationale. Donc tout de suite, on va parler de la Ligue 1. Donc on va commencer par Paris, c'est pas voulu, c'est le premier de ma liste. Paris donc qui a fait un début de saison jusque là assez mitigé, entre très bonnes prestations contre Lille à domicile, entre moins bonnes prestations, je pense au match contre je l'ai perdu. Bref, donc le PSG assez irrégulier dans cette première partie de saison, à l'instar de son jumeau marseillais. Au niveau des performances individuelles au PSG, Ouarou qui montre une nonchalance qu'on ne lui connaissait pas pour ma part, une nonchalance étrangère à son attitude de la saison passée. Et donc Paris qui pointe à l'heure actuelle en 7e position du classement, déjà à 7 points de l'Olympique Lyonnais qui est premier du classement. Un petit mot donc par rapport à Ouarou, Fabien, qu'est-ce que tu en penses de son attitude?
Déjà il faut quand même resituer le contexte, Ouarou donc blessé quand même une majeure partie du début de saison et qui est revenu finalement je crois il y a de cela 2-3 journées. Et puis c'est vrai que avec son retour, je crois que c'était son premier match, je crois d'ailleurs c'était contre l'AS Monaco, il avait quand même montré de bonnes dispositions, où il était quand même au service de l'équipe, toujours avec son jeu près de déviation qui sont souvent précieuses pour le collectif parisien. Mais c'est vrai que au-delà de ce qu'il sait faire d'habitude, il n'a pas retrouvé l'efficacité qu'on lui connaissait la saison dernière. En vendangeant quand même, il faut le dire, pas mal d'occasions. Je repense à cette tête contre l'Olympique Lyonnais où justement au lieu de la mettre sur un côté, il la met plutôt au centre et ça aurait pu offrir une victoire de prestige au Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais. Donc voilà. Après, pour parler de nonchalance, je ne suis pas sûr que ça soit ça. C'est surtout l'attitude d'un joueur qui a un manque de confiance. Et c'est vrai que je crois qu'il a marqué récemment. Il a marqué contre Lorient. Il avait dit que justement de marquer un but, ça le libérerait sûrement. Donc voilà, il l'a marqué. Donc maintenant, c'est vrai que tous les supporters du Paris Saint-Germain attendent justement qu'il se montre plus décisif. Justement pour le Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est quand même une petite déception du côté du club de la capitale. Et en tout cas pour moi, c'est une déception par rapport à sa saison dernière. Mais il faut quand même relativiser par rapport à sa blessure. Il revient seulement de blessé.
Tu l'as dit, je cherchais d'ailleurs le mauvais match du PSG, c'était donc à Monaco et la défaite 2-0. Donc voilà par rapport à Ouarou et tu penses que la meilleure solution en attaque pour le PSG, ça serait donc cette paire Ouarou et Erding, donc que le PSG pourrait aligner au retour de blessure du Turc.
C'est clair que depuis le début de la saison, on parle justement de cette association magique, on va dire entre guillemets, Ouarou Erding. Le problème, c'est que depuis le début de la saison, soit c'est Ouarou qui est blessé, soit c'est Erding. Erding, une putain de blessure, si on peut m'autoriser, à l'épaule. Je sais pas pour combien de temps il en a. Je sais pas s'il va être rétabli pour ce week-end. J'ai pas été aux informations, mais ça m'étonnerait. Donc voilà quoi. Et puis le PSG ne peut plus compter également sur un Louis Ndoula transcendant, qui avait quand même, tenu la baraque la saison passée en réalisant un bon début de saison. Bah cette année c'est pas vraiment le cas. Hein. La petite Peggy elle est pas forcément très efficace. Donc voilà, bah le Paris Saint-Germain manque d'attaquants et ça se ressent au niveau des statistiques puisque je crois que sur les derniers matchs du Paris Saint-Germain l'équipe tourne à moins d'un but ou à un petit but de moyenne par match. Donc voilà, c'est très faible pour une équipe du Paris Saint-Germain qui se veut cette année ambitieuse. Voilà.
D'accord. Bah oui, tu parlais des buts marqués du PSG. Non. Excuse-moi, ouais. Donc, j'ai mal entendu. Donc et toi, Doudou, par rapport à cette équipe du PSG que t'as pas encore eu l'occasion de voir jouer vu que donc t'es supporter bordel, je veux dire de voir évoluer contre ton équipe. Et qu'est-ce que tu penses d'Oaro? Il me semble que tu l'appréciais pas trop.
Déjà le Paris Saint-Germain cet été. Il y a toujours la traditionnelle phase où on fait nos petits classements et tout le bazar. Bah, le PSG, c'est pas une équipe que j'ai senti bien cette saison. On voulait la donner capable de concurrencer Bordeaux, Marseille, Lyon. Mais je l'ai jamais mis dans ce quatuor qu'on a voulu former. C'est plus une équipe pour moi du FA, d'Intertoto. Ils ont pas encore les armes pour faire une saison pleine. Ils sont très dépendants de Cessegno qui a toujours pas de cerveau. Ils sont très dépendants d'Oaro qui est toujours blessé. Ils sont très dépendants ils sont déjà dépendants d'Erding. Offensivement, ça reste frêle. Défensivement, ça s'est quand même clairement amélioré, ça faut le dire. Avec
même si Sakho quand même manque encore de constance. Hein. Désolé de te couper, mais ça c'est un débat qu'on pourrait aussi avoir. Sakho, par exemple, sur le dernier match du PSG face à Nancy à domicile, il fait quand même une petite boulette de placement sur le but d'Adji.
Certes, mais une erreur arrive à chaque défenseur et à son âge, c'est clairement une révélation. Il est déjà en train de confirmer, ça on ne peut pas le nier. Et c'est quand même un atout pour le PSG d'avoir un défenseur sur lequel pouvoir compter. Ensuite, il y a Seara qui s'affirme. On connaissait le Seara sur lequel on foutait de sa gueule, le Seara qui était devenu une blague. Ben maintenant, c'est tout le contraire. C'est un très bon arrière-droit de Ligue 1. Un des meilleurs, d'ailleurs. Et je pense que si Paris arrivait à trouver justement une constance, comme tu disais, une constance offensivement, ça pourrait être donner quelque chose de très bien. Et oui, comme tu m'as dit, Oaro, c'est pas un attaquant que j'ai apprécié. Je le trouve quand même limité. On a voulu le faire passer pour un chamac en puissance, alors que il est quand même à des années-lumière, même en mettant mon chauvinisme de côté. Il reste, techniquement, je le trouve pas énorme. Dans la vitesse d'exécution dos au but, je le trouve pas énorme. Il arrive à se retourner souvent, mais c'est lent, quoi. Et je trouve qu'il se fait souvent contrer. Et pour moi, l'an dernier, c'était une saison au-dessus de ses moyens.
Ouais, et puis un autre débat qu'on pourrait avoir, c'est le fameux côté gauche du Paris Saint-Germain, hein, puisque le Paris Saint-Germain a jeté, en quelque sorte, ou en tout cas a voulu se débarrasser de Jérôme Roten. Et maintenant, se retrouve un petit peu dans le caca, hein, comme on pourrait dire, parce que on a voulu justement placer Cessegno sur ce fameux côté. Et il s'avère quand même qu'après plusieurs matchs bien disputés, c'est véritablement pas là où il se sent le mieux. Hein. Il se sent un peu perdu sur le terrain, comme en témoigne sa terne prestation face à l'AS Monaco, qui s'était finalement conclu sur un carton rouge qui voulait tout dire. Hein. C'était comme un peu s'il envoyait un signe à son entraîneur comme quoi, j'ai fait un match de merde. Il était frustré de son match, de n'avoir pas pu justement toucher beaucoup de ballons et avoir plusieurs occasions. Donc ça, c'est aussi un autre problème à régler pour le Paris Saint-Germain. C'est un des nombreux problèmes à régler pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est quand même dommage, justement, de sous-exploiter, de mal utiliser le joueur qui est quand même l'atout principal dans le secteur offensif du Paris Saint-Germain.
D'ailleurs, donc on parle du PSG, vous l'aurez deviné en ce moment. On accueille quelqu'un qui est très à même de parler de ça, donc Adrien Pedro, pour ceux qui connaissent pas son prénom sur le forum, pour parler donc du PSG. Salut Adrien.
Salut à tous.
Salut. Donc, qu'est-ce que t'en penses donc du Paris Saint-Germain, que ça soit aussi bien au niveau des performances individuelles, au niveau des performances collectives, donc de l'équipe jusqu'à maintenant, après donc après 8 journées de championnat, et le PSG qui pointe à la 7e place du classement.
Bah, je pense qu'on peut être à moitié satisfait vu que les 4 premières journées on gagne 3 fois en match nul. Je pense que après la blessure de Hardy, on a une certaine Hardy dépendance. Que depuis qu'il est plus là, on n'est plus l'efficacité au niveau offensif, elle est plus là. Lundula, Waro, Julie, ça vendange un peu devant et on voit que il y a un manque de percussion devant et ça se ressent dans le match. Puis bon, on a Cécilion qui joue 20 minutes par match, qui veut pas se bouger le cul et que au bout d'un moment ça se moule. Et puis bah, comme vous en avez parlé tout à l'heure, où c'est le point faible quoi. On a un CCNU qui repique la moitié du temps au centre et à la plupart du temps Armand se retrouve tout seul du côté gauche. Donc ça c'est le gros point faible du PSG.
D'accord. Et on parlait de Sako à l'instant et GG, enfin Fab parlait de sa probable inconstance. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, je suis d'accord avec lui. Parfois dans un match, il a des sauts de concentration pendant 10 minutes, il peut passer à côté, puis il peut revenir, ça. C'est des erreurs de jeunesse, ça, qu'il faudra qu'il corrige, parce que comme tu l'avais dit, Fab, face à Nancy, c'est un peu la faute, c'est un peu de sa faute, il lâche le marquage sur Adji, il est tout seul, quoi. Il comprend pas trop comment où il se place, en fait. Et parfois, c'est pas embêtant, je pense.
D'accord. Et Cécilion, tu le trouves moins décisif que l'année dernière? Ou alors il était tout simplement comme ça l'année dernière et on en parlait pas.
En fin d'année, il était comme ça. Hein. Je trouve, depuis la fin de la saison dernière, il a pas changé. Il fait des caps pour un oui ou pour un non. Il branle rien pendant 70 minutes. Et dès qu'il veut faire un petit truc, bah ça, comme par hasard, ça fait un... Il y a un petit truc qui se passe de plus au sein du jeu. Ça se sent quand il veut bouger, bah tout de suite ça joue mieux. Mais comme la plupart du temps il veut pas se bouger, bah voilà, ça fait ça.
Tu vois ce que tu veux dire?
Ouais, vas-y, moi ce que je voulais te répondre, Pedro, Adrien, une fois que l'écho sera passé.
Ah, on a un très mauvais écho là. Allô. Voilà, c'est bon.
Voilà. Adrien, ce que je voulais dire là, c'est que tu dis que clairement Cécilion, enfin voilà, son attitude n'est pas tout à fait exemplaire sur le terrain, mais justement, je pense que tu vas me répondre par l'affirmative, mais moi je trouve ça dommage que le PSG justement n'utilise pas au mieux, de façon optimale, son meilleur joueur. Je trouve ça que c'est quand même un comble, quoi. Donc je sais pas, enfin ça c'est le problème, c'est que cette mauvaise utilisation, elle est due justement au souhait, en tout cas au choix de laisser partir Jérôme Roten lors de la toute fin du mercato, que je n'ai jamais compris d'ailleurs, parce que c'était un des seuls gauchers de l'effectif, et maintenant Comboiré se retrouve un peu contraint à mettre Cécilion à gauche, qui finalement repique tout le temps dans l'axe, donc ça crée un déséquilibre, ouais. Comme tu l'as dit, Armand qui se trouve démuni sur le côté gauche, les équipes qui s'empressent de déborder côté droit, et voilà, c'est tout le problème. Donc moi je trouve qu'il y a quand même un problème, on va dire, d'ensemble, en tout cas au niveau du placement des joueurs sur le terrain, et surtout de Cécilion, et je trouve ça vraiment dommage de mal utiliser vraiment l'atout essentiel du PSG.
Bah, c'est pas son poste de prédilection, comme tu l'as dit, il joue d'habitude derrière les deux attaquants, milieu offensif, en numéro 10, comme il avait l'habitude de le faire au Mans. Au PSG, on l'a mis deux fois dans cette situation-là, et on voyait que ça changeait un peu par rapport à d'habitude. Mais à gauche, c'est pas son poste de prédilection, le veut l'utiliser comme ça, quand on va continuer comme ça. Si on veut l'utiliser derrière les attaquants, faut changer de dispositif. Moi, j'avais pensé à un 4-3-3, on met deux milieux défensifs, on met Cécilion derrière les trois attaquants, qui sont Hardy, Waro et Julie. Moi, je pense que ce serait la meilleure solution dans ce cas-là. C'est pas nuire vachement au sein de ce dispositif, je pense.
Ouais, et puis donc pour finir, moi j'aimerais te poser une petite question juste en soulignant qu'on peut quand même remarquer que des joueurs qui l'an dernier ont su élever leur niveau de jeu, je pense notamment à un Jérémy Clément qui avait quand même fait une très bonne saison et qui, moi je trouve, depuis le début de la saison a quand même baissé en régime. Je pense également à Peggy Lunyundula qui avait fait quand même
Clément, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il s'est vachement amélioré, surtout sur son apport offensif. Ça, c'était son gros point faible, et je trouve qu'il s'est vachement amélioré.
Ouais, c'est vrai qu'il a mis sa grosse frappe, mais après... ouais.
Mais même, tu vois, par rapport aux années précédentes, quand il jouait sous les ordres de Le Guen, il se replayait vachement. Il passait que très rarement la ligne du milieu de terrain, et il apportait très très peu offensivement, au contraire d'un Chantôme quand il jouait. Il apporte offensivement, et là, cette année, je trouve que Clément, il apporte tout offensivement. Et ça au fil des matchs, je pense que ça peut être un petit plus qui pourrait faire pencher la balance.
D'accord.
Ouais, donc c'est après, bon. Je voulais aussi parler de Peggy Lumundula qui, l'an dernier avait quand même réalisé un bon début de saison, qui cette année, franchement, est retombé dans ses travers. Donc voilà, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a certains joueurs, qui l'an dernier avaient su élever leur niveau de jeu et qui cette année, sont un peu en dedans. Et puis, il y a quand même, ce problème Cessegnon. Sako qui est toujours inconstant, moi je vais te demander comment tu voyais la suite de la saison du Paris Saint-Germain et si tu avais des modifications à faire dans la composition que fait Comboiré ces derniers temps pour que ça aille mieux en fait pour le PSG.
Comme je t'ai dit tout à l'heure, le 4-3-3 avec trois attaquants, on mettrait Erling, Waro et Djouli avec derrière Cessegnon, pour moi ça me paraît le mieux. Après on aura le retour de Camara au côté de Sako, ça peut faire du bien parce que Sako à côté de Traoré, il perd son talent quoi. Je trouve Traoré il est pas bon et peut-être mettre aussi Jallet pendant que Cessegnon sera à la CAN en janvier, mettre Jallet titulaire comme il l'avait été face à Lyon, ce serait une bonne idée parce que Jallet c'est une des satisfactions du PSG et franchement un mec comme ça il mérite d'être titulaire à chaque fois qu'il rentre, il donne tout ce qu'il a sur le terrain et franchement à mon avis il mérite largement mieux que d'être remplaçant. Et parfois il
ça c'est clair hein, tu vois, j'irais pas jusqu'à dire qu'il peut remplacer Djouli, mais quand tu vois que Djouli est vraiment cramé, c'est limite hein.
Bah ouais, voilà, c'est ça. À chaque fois il remplace Djouli en fin de partie et à mon avis de mettre titulaire dans les prochaines semaines serait une bonne chose parce que face à Lyon il avait extrêmement bien joué, que j'allais. Je pense que mettre parfois à la place de Cessegnon, je pense que c'est pas mal.
Merci tous les deux, merci pour donc cette petite page sur le PSG. On va pouvoir passer à l'OL, l'Olympique Lyonnais, cher Dan, qu'on salue d'ailleurs, et on va pouvoir donc parler de Lyon, Pjanic qui est vraiment exceptionnel en ce début de saison, peut-être le successeur tant attendu de Juninho, aussi cher Dan. Et au niveau de Toulalan, qui on découvre un nouveau poste, ce poste de défenseur central, où il réussit plutôt bien, et donc ça permet de faire jouer Makoun tout seul donc à la récupération, qui est meilleur quand il n'est pas associé à Toulalan. Donc tout de suite, on va parler de l'OL.
Génération soccer. Hey, tu es un vrai passionné? Le foot n'a pas de secret pour toi? Alors viens nous rejoindre et pose ta candidature sur la radio de Soccer. Va sur le forum radio sur www.soccer.fr.
Comme c'est bien dit, voilà, vous voyez, on est en sous-effectif, mais on n'est que trois pour faire l'émission. Venez, n'ayez pas peur. Oh, je pense au Niçois, on n'a pas de Niçois, il y a des clubs qui ne sont pas représentés, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire si vous avez un micro, Skype, ça se télécharge. Voilà, vous aurez l'occasion de parler avec des gens comme nous, comme Pierrot Lunati, comme Marvolo qui se connecte à l'instant, comme d'autres et bien d'autres. Donc venez rejoindre la radio de Génération Soccers. Ça claque. Voilà, donc on va pouvoir tout de suite passer à l'Olympique Lyonnais. Donc je parlais de Pjanic, on va tout de suite parler de Pjanic. J'aimerais qu'on précise un peu son cas, qu'on parle un peu plus de lui. Fab, qu'est-ce que t'en penses de petit Pjanic? Il me plaît bien.
C'est vrai que Pjanic, quand même, il a pris de l'importance dans le système de jeu de l'Olympique Lyonnais depuis le départ, depuis le départ de Juninho. C'est vrai que l'an dernier, il était quand même dans l'ombre, on va dire, de Juninho. Alors que pour moi, justement, je comprenais pas pourquoi on va dire, on n'utilisait pas suffisamment Pjanic quand on voyait les performances quand même relativement médiocres de Juninho. Et c'est vrai que cette saison, bah voilà, c'est lui qui a un peu les clés de la maison lyonnaise, en tout cas de l'animation offensive lyonnaise. C'est vrai que depuis le début, il le fait plutôt bien. Surtout, eh bien, il a réussi à marquer des buts décisifs. Je me souviens du but contre Anderlecht où, voilà, bah, dès le début du match, il plante un coup franc, eh bien, qui facilite la tâche de l'Olympique lyonnais pour la suite. Contre la Fiorentina, même si c'est pas un but difficile, eh bien, il est là pour reprendre le ballon et pour offrir la victoire aux siens. Donc voilà, il a marqué des buts importants. Surtout, je pense qu'il a fait le plein de confiance avec ça, parce que c'est vrai qu'il sortait d'une saison relativement difficile. Donc c'est tout bonus pour l'Olympique lyonnais. Et surtout, bah, c'est un joueur à suivre, parce que quand on voyait déjà ce qu'il faisait tout seul à Metz, eh bien, on pouvait se dire qu'il était pétri de talent. Et là, il est en train de confirmer en tout cas son talent.
Merci. J'ai le même avis sur Pjanic là qui explose littéralement cette saison et bah dans ce rôle de meneur de jeu voire relayeur droit quand Lyon se repositionne en 4-3-3, mais je le vois vraiment bien depuis ce début de saison et je pense que il fera oublier Juninho dans les heures qui viennent. Dommage que Dan ne puisse pas intervenir, il aurait pu donner son petit avis sur ses chouchous lyonnais, sur Miralem Pjanic. Et toi, Doudou, qu'est-ce que t'en penses de Pjanic? Pjanic ou Ederson, c'est quelque chose qui revient souvent, hein, ce mini-débat, Pjanic ou Ederson, pour le poste de meneur de jeu. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Je suis plutôt Pjanic.
Oui.
Parce que Ederson, on a eu la chance de le voir jouer, lui aussi. Et peu d'entre nous est capable de nous ressortir une performance mémorable de sa part. Alors que cette année, Pjanic, qui est revenu de blessure, qui est enfin au niveau physiquement, ben il s'est de suite bien intégré, comme en témoigne ce match à Anderlecht où il a débloqué la situation, puis après tout s'est enchaîné pour lui et maintenant il est devenu indiscutable au collectif. Donc même pour moi maintenant parler d'Ederson me semble pas d'actualité. Non. Il est sur le banc et on le fera jouer quand il y aura la Coupe de la Ligue ou des matchs de roulement, mais pas maintenant, quoi. Mmh.
D'accord. Merci pour ce petit avis par rapport à la star luxembourgeoise, bosniaque, française. Voilà, on sait pas trop. Non, c'est bosniaque officiellement, mais il a plusieurs autres nationalités. Voilà. Par rapport à Lyon et ce repositionnement de Toulalan en défenseur central, moi je vois ça comme quelque chose de positif, hein. Toulalan, ça permet d'aligner seul Makoun à la récupération, ça permet d'avoir notamment un bon Toulalan en défenseur central et d'associer un...
C'est pas bon au milieu de terrain?
Bah, il est bon au milieu de terrain, c'est un excellent milieu défensif, sauf qu'avec Makoun, ça se marche un peu trop les pieds. Et là, dans ce dispositif, il est bon en défense centrale et ça permet de mettre Makoun seul à la récupération. Donc moi, je pense que c'est plus que positif.
Alors moi, je pense, tu vois, que c'est positif peut-être pour l'Olympique Lyonnais, mais je suis pas sûr que ça soit positif pour justement pour Toulalan et la suite de sa carrière, parce que Toulalan, peut-être que c'est une reconversion possible en tant que défenseur central à l'avenir, mais pour l'instant il a quand même encore les cannes, hein. C'est Toulalan, c'est un joueur qui a une casse énorme. On dit souvent qu'il a 3 poumons, c'est pas pour rien. Donc voilà quoi. Moi je trouve ça un peu dommage de le cantonner à ce rôle de défenseur central. Et c'est vrai que c'est quand même un poste où l'Olympique Lyonnais a des problèmes depuis maintenant 2 bonnes saisons, avec un Chris qui depuis sa blessure n'a jamais retrouvé son vrai niveau, et puis des recrues du style Kleber Anderson qui est vraiment faible, Boomsong qui est au niveau vitesse catastrophique maintenant. Et Bonnemer, eh bien justement, Bonnemer, c'est l'exemple du type qu'on a mis en défense centrale et qui, eh bien justement, là, commence à faire, on va dire, des performances plutôt mitigées. En plus, il traîne ses blessures. Et voilà quoi. Donc, ce mec était destiné à faire quand même, enfin, qui est destiné tout de même à faire une bonne carrière au milieu de terrain. Mais il est en train de se griller, ou en tout cas, il s'est grillé jusqu'à présent en jouant au poste de défenseur central pour dépanner. Donc moi j'espère que ce dépannage de Toulalan en défense centrale, il sera que temporaire, à la fois pour le bien de sa carrière, mais aussi pour le bien de l'Olympique Lyonnais. Après c'est clair que comme tu le dis, ça permet à Makoun, eh bien, de jouer au milieu, mais ne vaut-il pas un bon défenseur central? C'est vrai que l'Olympique Lyonnais ne l'a peut-être pas à l'heure actuelle. Oui, et surtout, voilà. Moi, je pense que Toulalan est plus efficace au milieu que Makoun, mais ça, ce n'est que mon avis.
Ah, mais ça, c'est sûr. Sauf qu'à l'heure actuelle, si on évalue les plusieurs opportunités qu'a l'OL, moi, je pense que cette option est bonne. Toulalan, défenseur central, il est pas mauvais, il est bon en défenseur central. Ok, ça fait Toulalan en moins au milieu de terrain, sauf que au niveau des possibilités, je préfère avoir Toulalan en défense centrale. Au niveau d'un avis extérieur, je préfère voir Toulalan en défenseur central, Makoun en milieu défensif, plutôt que Bakris qui est pas bon cette année, avec Toulalan et Makoun en milieu défensif. Voilà. Allez, oui, Edouard.
Ouais, mais le problème, c'est pas vraiment Toulalan en milieu défensif ou Toulalan défenseur central, c'est juste que Puel, il a jamais su choisir entre Makoun et Toulalan. Il a jamais voulu choisir entre Toulalan, qui était pourtant la référence au poste de 6, et son chouchou Makoun, qui l'a fait venir de Lille.
Il a quand même choisi clairement sur Toulalan, quand même.
Ben non, justement, il met justement Toulalan en défense centrale pour pouvoir mettre Makoun en 6.
C'est justement parce que Toulalan est en défense centrale qu'il peut mettre Makoun en 6. Mais si tu regardes les matchs de la saison dernière, les matchs de ce début de saison, c'est quand même Toulalan qui avait la primeur, en tout cas du poste de numéro 6 par rapport à Makoun. Ça, c'est clair.
Pourquoi le mettre en défense centrale alors? Je pense pas.
Le problème, c'est en défense centrale parce que justement, Bonnemer est blessé aux adducteurs, parce que Boumsong traîne toujours sa blessure. Et voilà quoi, c'est faute de mieux. Enfin, c'est même pas faute de mieux, c'est qu'il y a une telle avarie, on va dire, en défense centrale, qu'il y a que Chris qui est opérationnel en défense centrale. Donc voilà, l'autre possibilité, c'est de faire descendre Toulalan. Mais c'est vraiment parce qu'il est forcé qu'il met Toulalan en défense centrale. C'est pas comme s'il y avait deux trois défenseurs centraux qui étaient derrière et qui mettaient quand même Toulalan. C'est vraiment parce qu'il y a pénurie à ce poste.
Ah oui, de toute façon, c'est Puel, il avait. Je pense qu'il était plus facilement quitté des deux milieux défensifs. Ça serait bien d'arrêter. Parce que c'est un chiant. Voilà, non. Voilà. Alors, voilà, donc je disais, c'est Puel, je pense pas qu'il ait définitivement abandonné cette idée des deux milieux défensifs. Il a eu l'occasion d'arrêter de changer de stratégie, enfin de tactique de jeu l'année dernière, il l'a pas fait, il a toujours continué dans cette optique. Et là, comme tu le dis, je pense que c'est parce qu'il est obligé, hein, qu'il met Toulalan en défense centrale, parce que les prestations de Chris ne conviennent plus. Voilà pourquoi je pense que Toulalan est en défense centrale. Après, moi je pense que c'est une bonne solution, mais dans l'esprit de Puel, je le vois pas continuer à long terme dans cette composition d'équipe. Voilà pour l'OL. Messieurs, dames, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, s'il n'y a rien d'autre à ajouter, eh ben on va pouvoir tout de suite passer à l'autre Olympique de Lyon, à l'Olympique de Marseille.
Génération Soccer, le foot, c'est notre passion.
C'est notre passion, effectivement. C'est pour ça qu'on parle ce soir, qu'on est là pour parler de la Ligue 1, On a parlé de l'équipe de France tout à l'heure, et on va parler tout de suite de Marseille, comme je l'ai dit. Marseille, il y a plusieurs interrogations. On parlait tout à l'heure du retour de blessure d'Hilton. Il y a aussi Lucho qui est décevant depuis ses premières prestations. On va essayer de répondre, on va essayer de trouver l'ensemble pourquoi, et répondre à vos questions, chers auditeurs. N'hésitez pas à réagir. Là, je vois qu'il y a personne qui réagit. C'est dommage, hein. C'est l'intéressant de cette émission. N'hésitez pas à réagir. C'est vous qui faites l'émission. Votre réaction est lue à l'antenne et on peut débattre avec vous. C'est comme si vous étiez. Et puis, si vous voulez y être, achetez un micro et venez sur Skype avec nous. Voilà, c'est simple, je le répète. Et donc on va pouvoir parler de Lucho. Lucho, donc, on l'a vu à plusieurs reprises dans un 4-4-2 au même niveau qu'un Gourcuff à Bordeaux. Personnellement, je vais donner mon avis, je le vois pas dans ce rôle, surtout à cette époque où de ce poste de numéro 10, c'est pas comme un Zinedine Zidane, un joueur très technique qui distribue le jeu, mais vraiment un soutien à l'attaquant. Et Lucho n'a pas du tout le profil pour jouer dans cette configuration. Je le vois plus en 8, en relayeur droit, accompagné de Chérou. Là, il joue, on l'a vu, même si contre Monaco, c'était un 4-3-3, il jouait très très haut, Lucho. Il jouait très très haut, quasiment au niveau de Morientes. Et on l'a vu à plusieurs reprises essayer de faire la différence tout seul, tenter des frappes. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai une statistique assez bon, vous l'interprétez comme vous voulez, mais moi je la trouve assez marquante quand même. Donc Lucho, l'année dernière, en 21 matchs à Porto, il a tiré 13 fois au but. Et là, en 21 matchs, il a tiré 19 fois au but. Et là, à Marseille, en 5 matchs, il a déjà tiré 13 fois au but. Donc ça montre qu'il a pas du tout le même rôle déjà, et qu'il veut trop faire la différence par lui-même. Dommage que Pierre ne soit pas là pour parler de Lucho, qu'il a sûrement vu jouer l'année dernière, dans le championnat portugais. Donc voilà, moi je veux voir Lucho dans un 4-3-3 au milieu, avec, comme l'a dit Pierrot, en off, avec Mbia derrière et Chérou, dont le jeu ressemble à celui de Raúl Meireles. C'est là où il pourra pleinement prendre du plaisir. Après il fait ce qu'il veut, hein. Je connais pas ses plaisirs, sa vie intime, voilà, mais du plaisir sur le terrain, bien sûr. En relayeur droit, je le vois bien dans ce rôle-là, pas en 10, enfin en soutien de l'attaquant dans un 4-4-2. Je sais pas ce que, donc voilà, ce que t'en penses, Fabien.
Moi, ce que je pense, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que Lucho joue beaucoup trop au sein du collectif marseillais. C'est vrai que ça m'avait beaucoup frappé contre Monaco et aussi à Bernabeu contre le Real Madrid. Le fait qu'il joue très haut, déjà, ça l'empêche de toucher un maximum de ballons. Or, on sait que ça doit être avec Chérou le leader technique, en tout cas l'un des leaders techniques de l'Olympique de Marseille. Donc en se collant, comme tu l'as dit, à l'avant-centre ou en tout cas aux attaquants, ça l'empêche justement d'avoir, on va dire, une vision d'ensemble du jeu. Et puis voilà, moi c'est clair, comme tu l'as dit, le voir en 8, le voir en relayeur, moi je pense que c'est un rôle qui lui conviendrait parfaitement, puisque comme on le sait, c'est pas forcément un joueur qui est très rapide, on va dire, au niveau de la vitesse. Et donc après, lui laisser plus de temps, qu'il démarre de plus loin au niveau du terrain, je pense que ça lui permettrait justement à sa technique, eh bien justement, de mieux s'exprimer plutôt que d'être collé aux attaquants, où là justement, d'une part, il touche pas de ballon, et d'autre part, il n'y a pas de ballon.
Voilà. Voilà, donc, bon, on parle de Lucho qui est argentin, on parle de Marseille, et quoi de mieux pour parler de ceci d'avoir invité un Marseillais argentin. Donc salut Habib, qui est avec nous là pour parler de ceci.
Ouais, bonsoir à tous.
Bonsoir. Tu nous as entendu parler par rapport à Lucho?
Non, mais je me doute un peu de ce qui a été dit. Donc
Oui, et toi justement, est-ce que tu crois que je répète un peu, personnellement je pense qu'il faudrait mieux le faire jouer donc dans un poste de relayeur droit, dans le 4-3-3, plutôt qu'en soutien des attaquants comme Gourcuff à Bordeaux? Je vois pas du tout à ce poste là et toi?
Ouais, c'est quand même assez logique, vu que il a joué 3 ans à Porto en ce poste là quand t'arrives dans un nouveau championnat, qu'en plus tu te niques l'épaule et que tu joues pas 2 mois, t'as la préparation physique qui a pas été faite, et ça se voit physiquement, il est complètement à la rue. Donc si en plus tu dois lui demander de jouer un autre poste, forcément ça marche pas. Faut pas oublier aussi qu'à Porto, les attaquants sont mobiles. J'aimerais bien dire la même chose sur Brandao et Morientes, mais bon, c'est franchement pas le cas. Et c'est dommage, quoi, parce qu'on le fait toujours jouer en numéro 10, alors que bon, ça marche pas.
Ah, mais justement, Marvolo, moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi justement un mec comme Deschamps, qui est quand même pas une buse au niveau tactique, au niveau en tout cas du poste d'entraîneur, pourquoi il le fait jouer à ce poste-là et pourquoi il persiste et signe à le faire jouer à ce poste. C'est ça que moi je comprends pas quand je vois les compos et le quand je vois surtout que le même scénario s'est répété sur 3-4 matchs quoi.
Je me suis fait un petit peu endormir par ton discours quand tu as dit entraîneur français assez bon tactiquement qui persistait signe. Je croyais qu'on parlait de Domenech. Ben voilà, je pense que t'as une bonne idée, c'est l'image de l'ancien DTN. En France, on aime bien rester plusieurs mois à tenter toujours la même chose. On a peut-être un peu plus de mal à admettre que c'est une mauvaise idée. Et c'est d'autant plus mauvais que il n'y a pas l'effectif pour un Marseille pour jouer en 4-4-2. On n'a pas deux bons attaquants. Mais après, ce qu'on peut l'expliquer peut-être par l'absence à la fois de Bakayoko Kone et puis surtout le mauvais rendement de Ben Arfa. Donc si jamais tu as envie de jouer en 4-3-3, t'as pas grand monde à faire jouer côté droit. Donc c'est peut-être ça qui a poussé des chances, parce qu'à part ça, je vois pas trop.
Oui, le changement en 4-4-2, c'est explicable. Mais oui, vu que Ben Arfa donc faisait le Ramadan et n'était pas n'offrait pas des garanties maximales à ce poste. Donc
moi, je suis pas sûr que sans le Ramadan, il ait été meilleur.
Ah non, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire, mais il n'offrait pas les garanties nécessaires pour être titulaire d'entrée dans cette tactique. Et donc Deschamps a préféré se tourner vers un 4-4-2 avec donc Abriel et Lucho et Cherou et bien pour renforcer le milieu de terrain. Et donc voilà comment on expliquera ce changement. Mais je le vois revenir vers un 4-3-3 avec la bonne prestation de Ben Arfa contre Monaco qui faut le signaler, il était pas mal par rapport à d'habitude. Et je le vois, en tout cas, j'espère de tout cœur s'orienter dans ce 4-3-3, voilà. Voilà pour rapport à Lucho et le 4-3-3. Autre info, tout à l'heure, donc, on a annoncé Fab, le retour de blessure d'Hilton. Ça pourrait offrir une solution supplémentaire en défense centrale parce que ces derniers jours, et pas que ces derniers jours, on a beaucoup parlé de la défense marseillaise et Aïssou et Diawara qui auraient le même profil de Bourin et pourquoi pas associer donc Hilton à Diawara pour apporter une touche plus technique à la défense. Voilà, moi je pense que ça serait à tester vu le manque de vitesse notamment d'Aïssou, on l'a vu face à des attaquants rapides comme Park. Et donc moi j'aimerais bien voir Hilton. Voilà, j'aimerais bien voir Hilton accompagné d'Yawara. Et toi, qu'en penses-tu, Abid?
Hilton ou Wenze, mais faut qu'on arrête avec la défense de Bourin là, parce que on a quand même réussi à former avec deux bons défenseurs une défense du niveau de celle de Saint-Étienne. Quoi. Donc,
oui. Mais à un moment où pas prévisible.
Ah, prévisible. Non, tu sais, j'ai toujours le même exemple, enfin le même contre-argument plutôt pour ce genre de choses, c'est l'exemple Andy Cole et Dwight York. Quand ils arrivent à Manchester, tout le monde dit qu'ils sont pas complémentaires et puis gagnent la Ligue des Champions ensemble. Donc, est-ce que c'est sur entre guillemets prévisible dans le sens où quand on analyse les qualités des deux, oui évidemment, mais après on sait jamais comment ça se passe sur le terrain et bon ça, malheureusement non, là on a vu ce que ça donne et puis après on peut même être plus clément en disant que c'est peut-être une mauvaise passe parce que pendant 5 journées ils ont été très bons ou 4 journées ils ont été très bons. Donc bon, ça dépend comment on voit le verre. Moi je pense qu'il faut vraiment le voir admis vite parce que ça va te faire encore plaisir, mais les buts qu'on se prend contre Monaco, c'est horrible, quoi.
C'est vrai.
Mais le problème, c'est que ouais, tu dis un peu sur les 5 premiers matchs, c'est clair, il n'y avait rien à dire, ils étaient solides. Après, il faut voir aussi les adversaires de ces 5 premiers matchs, quoi. Et c'est vrai que les échéances, elles se sont surtout précipitées là, lors des
Les 5 premiers matchs, on a quand même joué à Rennes, contre Lille.
Lille, tu vois, c'est pas réputé pour son attaque transcendante.
D'accord, mais dans les 5 premiers matchs, on a joué Rennes, on a joué Lille, on a joué Bordeaux.
Justement, contre Rennes, si je peux me permettre.
Forcément.
Il a été mauvais.
Mauvais, non, mais il a été, on va dire, Heimze, quoi.
Oui.
Brouillon.
Oui. Oui, voilà.
Mauvais, non, mais brouillon. Mais bon, en même temps, tu fais jouer Diawara Enze, t'attends pas des relances de 50 mètres.
Hein. Oui, non, mais c'est sûr. Je veux dire que lors de ce match, on a vu un peu ses limites de vitesse face à Bangoura qui l'a fait danser dans tous les sens. Voilà.
Ouais, évidemment. J'étais le premier à le dire. Je vais pas changer d'avis maintenant, mais bon, après. Le truc, c'est qu'il faut peut-être être un peu plus clément. C'est bizarre de dire ça pour Marseille, parce que bon, les médias sont suffisamment cléments avec eux, mais moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est de voir que quand Marseille perd, c'est parce qu'on a une défense de merde, ou qu'on n'a pas un bon effectif, mais quand Bordeaux perd, c'est parce qu'il y avait le turnover. Faudra m'expliquer un petit peu la différence entre les deux, mais...
Bon, en tout cas, c'était quand même flagrant, Saint-Et-Bordeaux, c'était quand même assez flagrant que... Enfin voilà, c'était quand même l'effectif quand tu voyais le 11 titulaire, il était clairement remanié. Donc il y avait.
Oui, mais c'est pas la question parce que le non mais il faudra m'expliquer en quoi la différence d'effectif où se situe la différence au niveau de l'effectif. Je parle pas du 11, je parle bien de l'effectif. Le 11 bordelais est sur le papier, il est peut-être pas meilleur, mais sur le terrain, il est largement meilleur parce qu'il est plus collectif. Et à Marseille, on aime bien se laisser berner par les individualités. Mais,
non mais
à Marseille, tu as deux changements à chaque fois dans le 11 titre. Deschamps, c'est comme ça, il aime bien donner sa chance. Alors une fois, il va lancer Ben Arfa, une fois, il lancera Koné, une fois, il lancera Brielle, une fois, il lancera... Donc au final, il y a aussi un turnover, mais il est léger. Si,
ah, mais
si
c'est ce que je voulais
Blanc
dire,
s'amuse à faire jouer toujours le même 11, avec, pour reprendre Edouard, il ne fait jamais sortir Gourcuff. Gourcuff joue toujours 90 minutes, que ce soit en coupe, en championnat, quel que soit l'adversaire, qu'on gagne 4-0 ou pas, il joue toujours 90 minutes. Bah, au bout d'un moment, t'es obligé de le faire souffler. Et donc, c'est là qu'on revient à cette histoire d'effectif.
Ah, mais, non, mais sur la question, voilà, là, tu soulignais quand même une des différences entre le Bordeaux de cette année et Marseille de cette année. C'est déjà que Bordeaux, c'est pas une équipe qui s'est construite lors de ce mercato-là, quoi. C'est une équipe qui se connaît au moins depuis la saison dernière, voire quand même depuis plusieurs saisons. Alors que Marseille, c'est une équipe nouvelle qui a été construite cette année, certes avec des éléments qui étaient déjà là avant. Mais ça joue déjà d'une part. Après, c'est clair que sur Gourcuff, le souci, c'est que Gourcuff, il a pris une grande importance dans l'effectif bordelais. Donc, c'est clair que quand il est pas là, bah, pour mener le jeu, il y a quand même un grand vide. Mais après, ça s'est pas limité au simple remplacement de Gourcuff face à Saint-Etienne. Donc, c'est vrai que face à Saint-Etienne, Laurent Blanc a quand même largement fait tourner son effectif. Donc, ça peut être une des explications. Après, c'est lui qui a décidé de le faire tourner, alors qu'il y avait 15 jours de trêve internationale derrière. Donc, c'est vrai que ça se discutait aussi, quoi, mais, voilà.
Bah, au-delà de ça, il y a aussi le fait que, si tu t'amuses à ne pas renforcer le banc, et ça, quand je le disais en début de saison, je me disais que c'était pas le cas, bah, forcément, tu peux pas t'attendre à gagner tous les matchs, parce que tu sais très bien que c'est pas toujours le même 11 qui va te gagner les matchs, il faut de bons remplaçants, ils en ont à Bordeaux. Mais c'est aussi une lacune, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une lacune de l'entraîneur, ça, de toujours faire jouer le même 11 et puis être obligé, ben, une fois toutes les 8 journées, enfin, c'est ce que j'espère pas pour les Bordelais, ben, de devoir complètement, de complètement changer son 11 type en n'en gardant que 3 ou 4, ben, pour les faire souffler. Ça aussi, c'est une lacune des entraîneurs. Et tout ça, on en revient toujours à ce que je disais au départ. À Marseille, quand il y a un souci, c'est toujours, oui, ils sont pas bons, oui, c'est l'enflammade, oui, ceci, cela. Il y a plein d'éléments qui confirment ce qu'ils disent. Là, je suis d'accord avec vous. Je dis pas qu'à Marseille, c'est la folie ou c'est le monde des bisounours. Mais on a aussi le droit de dire qu'à Bordeaux, Blanc fait des conneries. Parce que le fait de jamais toucher son 11 type, c'est une belle connerie.
C'est pas faux.
D'ailleurs, bah, en plein dans ce débat, on est en plein dans ce débat à Bordeaux OM. On va, la transition est toute faite. Pardon, et on va pouvoir tout de suite passer aux Girondins de Bordeaux. On va évoquer un peu les performances des joueurs et de l'équipe, donc jusqu'à cette petite trêve. Sans jingle, c'est pas grave. Donc on va tout de suite passer. Eh ben si, un peu de retard. Excusez-moi. On va tout de suite passer au Girondins de Bordeaux. On a Edouard qui est supporter bordelais avec nous. On va faire au cas par cas. J'aimerais parler du cas Kavenaghi, donc qui est pour l'instant définitivement remplacé dans le 11 titulaire par Johan Gouffran, qui évolue avec Marwan Schmar sur le fond de l'attaque Chamac pour pour ceux qui le prononcent à la française. Donc voilà, Marwan Chamakh et Johan Gouffran en attaque, Exit Kavenaghi. Bah tiens Edouard, en plus t'es fan de Kavenaghi, logique ce soir.
Bah, y a quelque chose que je pense, pas tous les Bordelais sont d'accord avec moi, c'est que Chamakh, il utilise pas la même place qu'il utilisait les autres années auparavant. Je trouve, sur les matchs que j'ai regardé les journaux, c'est-à-dire quasiment tous, que Chamakh, il évolue un petit cran au-dessus qu'auparavant, c'est-à-dire qu'il se concentre beaucoup plus dans les 20 derniers mètres, dans le but, alors qu'il n'a pas les qualités pour... On va me dire que l'an dernier, il a mis 13 buts, ok, mais c'est... Dans la configuration d'un tueur, d'un buteur, Chamakh, il n'est pas dans cette peau-là. C'est Kavenaghi, lui, oui, c'est un buteur. Et justement, je trouve que les positions se sont un peu inversées entre les deux. Et que Chamakh reste beaucoup plus devant à attendre les ballons de par sa relation privilégiée avec Gourcuff. Et que Kavenaghi, à chaque fois qu'on le voit, il est comme une âme en peine sur le terrain. Il cavale un peu partout pour toucher un ballon. Donc ouais, ses performances de suite sont moins bonnes. Ça, on va pas le nier. Hein. Sur le terrain, il est pas très bon, Kavenaghi. Il se crée beaucoup moins d'occasions. Il est beaucoup moins percutant. Donc oui, Gouffran est une solution logique au problème Kavenaghi, parce que Gouffran est quelqu'un qui percute beaucoup plus, qui est capable de prendre la profondeur, qui est capable de déborder, qui fait beaucoup d'efforts. Et oui, c'est un remplacement logique. Tant qu'on restera dans cette configuration-là avec Chamakh, ça risque pas d'évoluer pour Kavenaghi, à moins qu'il ait un éclair
de génie,
on va dire.
D'accord.
Mais je voulais juste te donner un petit élément de réponse. Te fais pas chier avec Schmar cette année, il est en plein mode melon. Le fait qu'il soit pas pris par Arsenal, en grande partie parce que il marque pas assez de buts, ça explique largement ça. C'est exactement ce qui s'est passé ce week-end quand il jouait avec le Maroc. Il en avait absolument rien à foutre d'aider l'équipe, alors que c'est là où il est meilleur, c'est quand il est justement à la construction du jeu. Là, il pensait qu'à sa gueule. Il est dans une optique où tout ce qui l'intéresse actuellement, c'est marquer des buts. Et donc voilà, c'est exactement ça le problème qu'il a en ce moment. Il me fait un petit peu penser aux nouveaux riches qui oublient un petit peu d'où ils viennent. Et lui, c'est pareil. Je pense qu'il a un petit peu oublié que là où il est fort est ce qu'il a rendu célèbre, entre guillemets, en France et même dans le monde du foot, c'est justement que ce soit un attaquant qui aide ses milieux de terrain à créer du jeu. Et ce n'est pas et ce ne sera jamais un buteur.
Oui, de plus, on a toujours dit qu'Avenaghi, il a besoin de Chamakh pour briller, mais c'est aussi vrai dans les deux sens, parce que on remarque quand même que depuis que Chamakh se concentre beaucoup plus sur les 20 derniers mètres, on le voit beaucoup moins. Les derniers matchs de Chamakh, c'est pas des performances extraordinaires. En Ligue des Champions, il est toujours aussi transparent, ça on va pas pouvoir le nier. Ça fait maintenant 8 matchs, 8 titularisations en Ligue des Champions, et il a jamais sorti un gros match, si ce n'est à Cluj l'an dernier, mais c'est sa seule grosse prestation dans cette coupe. Le reste, c'est moyen. Il se crée pas d'occasion. Il n'a toujours pas marqué dans cette coupe-là aussi. Et personnellement, je suis assez inquiet. Ouais. Dans le programme, on disait, est-ce que c'est la saison de trop pour Chamakh? Je dirais pas que c'est la saison de trop, parce que ça reste quand même un joueur très important. Mais s'il continue dans cette lignée, ouais, c'est assez chiant.
Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Edouard, sur Kavenaghi, Gouffran. Bah, tu faisais un peu la comparaison, mais bon, ok, il peut y avoir comparaison, mais il faut quand même rappeler que Gouffran, il est exclusivement utilisé depuis qu'il est à Bordeaux sur l'aile droite, donc c'est aussi un petit peu logique qu'il évolue pas dans le même registre que Kavenaghi. Kavenaghi qui a vraiment l'âme d'un buteur, tandis que Gouffran, même si lui aussi, c'est forcément un attaquant, mais voilà quoi, c'est plus un mec qui va justement aller déborder sur l'aile droite. C'est quand même un registre différent.
Ouais, c'est deux profils différents. Et avec la nouvelle configuration de Chamakh, c'est Gouffran qui s'accorde le mieux avec ça.
Je suis pas spécialement d'accord quand tu dis l'âme d'un buteur, parce que l'âme d'un buteur, tu vois, c'est justement ce qui permet à un attaquant de marquer même quand il n'a pas de case ou quand il a juste une demi-occasion. C'est pas le cas pour Kavenaghi. C'est quand même un mec qui a besoin que tu lui mettes de bons ballons. Tu vois, à la au lieu de dire âme du buteur, j'aurais plutôt dit bon finisseur. Là, je suis d'accord, mais l'âme du buteur, non, j'ai jamais été spécialement impressionné, surtout que je l'ai vu, je le connais depuis quand même un peu plus de temps que vous. C'est pas un mec qui m'a impressionné par sa capacité à être là où était le ballon toujours. Non, lui, c'est quand même un mec qui a besoin de, en fait, qu'il est plus dans le à la finition d'une action plutôt qu'un Inzaghi qui se barre complètement, il n'est pas du tout dans l'action, et puis à la retombée du ballon, c'est lui qui est là.
Ah mais tout à fait, mais de toute façon, Kavenaghi...
Je serais un petit peu moins flatteur ou optimiste vis-à-vis d'une évolution de Kavenaghi si le jeu de Bordeaux ne change pas.
Ah mais Kavenaghi, c'est pas un renard à la Inzaghi. Certes, il a un très bon placement, mais c'est surtout quelqu'un qui a besoin de toucher le ballon, il ne peut pas rester un match à attendre l'occasion qui va venir, ça c'est pas possible. Il veut être au début des actions et à la fin. C'est d'ailleurs pour ça que en 2008, là où il fait sa superbe demi-saison, c'est meilleur parce qu'il n'avait pas de numéro 10 derrière lui. Miku, il était rarement là. Et quand Miku était là, il y avait une superbe association des deux. Et ça permettait à Kavenaghi d'être au départ des actions, de construire et après de se retrouver devant. C'était une évolution logique dans le jeu et ça lui permettait d'être toujours là. C'était le centre du jeu un peu. Et maintenant, le centre du jeu, c'est Gourcuff, et Gourcuff est de suite lié à Chamakh maintenant.
Et puis, j'ai juste une petite interrogation par rapport à Kavenaghi. Est-ce qu'en fait, il souffre pas un petit peu de la comparaison maintenant avec Lisandro Lopez? Parce que depuis qu'il est arrivé à Lyon, il brille de mille feux, il est très bon, il marque beaucoup, il aide beaucoup à la construction du jeu. Moi, j'ai un petit peu l'impression que Kavenaghi, c'est maintenant de prouver que lui aussi, qu'il est du même niveau, en fait. Et donc il va un petit peu contre nature, il essaie peut-être d'en faire un peu trop. Et bon, on sait très bien qu'au foot, dès qu'on essaie d'être dans l'excès, ben ça marche jamais, quoi. Je sais pas comment vous voyez ça, mais...
Non, je pense pas que ce soit en rapport avec Lisandro directement. C'est juste lui, dans sa manière de jouer, il touche plus un ballon à cause du placement de Chamakh. Donc je pense que sur le terrain, il doit pas le vivre très bien. Même quand on voit ses rentrées, tu le vois qu'il touche le ballon, mais devant, tu le vois pas devant. Il essaye tellement de toucher le ballon que tu le vois revenir à 30 mètres des cages de Carasso, tu le vois courir un peu partout, mais c'est triste, quoi. Moi, on n'est pas habitué forcément à ça, on est plutôt habitué à le voir dans les 20 derniers mètres, à faire les petites combinaisons, et là, tu le vois plus. Tu le vois plus.
Ouais, donc en gros la question se pose de savoir est-ce que Kavenaghi il a sa place dans le système mis en place par Laurent Blanc et ouais. À t'entendre, j'ai l'impression qu'il l'a plus, quoi.
Ah, pour
et
moi,
ça fait pas depuis quelques rencontres, hein. J'ai l'impression que ça fait quand même déjà la saison dernière, c'était assez je crois au début de saison, il s'entendait bien avec Gourcuff, notamment sur sa spéciale coup franc quand il reprenait de la tête au premier poteau, mais sinon voilà, quoi.
Ouais, pour moi il est plus du tout adapté au schéma des Girondins.
Et ça c'est clair. Et ben voilà. Ben voilà pour les Girondins. Merci Edouard, merci tous les deux. On va pouvoir tout de suite passer à l'AS Monaco, sans doute avec Montpellier, la révélation de la saison qui n'en finit plus d'étonner Monaco, avec le bon Parc, l'affaire Pinot, faudra évoquer l'excellent Néné peut-être. L'un des meilleurs à son poste en Ligue 1, incontestablement. Donc voilà, tout de suite, Monaco avec Fab.
Ouais, juste pour revenir un peu sur le club qui tient à cœur, Monaco.
Il faut chercher le Kleenex ou tu peux le faire sans Kleenex?
Ah, je vais le faire sans Kleenex parce que en ce moment, Monaco me fait plus plaisir que pleurer, on va dire, ces derniers temps.
Mais c'est vrai, tu peux utiliser le Kleenex même quand t'es content, tu sais.
Bah, c'est vrai. Mais Monaco, les performances de Monaco ne vont pas jusqu'à me faire pleurer de plaisir parce que, comme tu l'as dit, Roméo, t'as plutôt dit un très bon début de saison. Moi, je dirais un bon début de saison parce qu'il y a quand même eu des contre-performances, notamment la défaite contre Nancy 4-0 et ensuite une nouvelle défaite contre Nancy, élimination en Coupe de la Ligue. Il y a un petit écho, encore une fois. Voilà. Donc ouais, moi je trouve un bon début de saison à Monaco, et puis surtout quelque chose qui a changé, c'est que maintenant à Monaco il y a du jeu. Et ça c'est vrai que, bon après, bien sûr je sens que Marvolo va me contredire, par rapport au match contre Marseille, où c'est vrai que Monaco, bah, bien sûr, a laissé un peu le ballon, on va dire, à l'Olympique de Marseille. Mais sinon, moi, je trouve quand même qu'au niveau de Monaco, il y a du jeu. Et forcément, bah, ça coïncide avec le retour en grâce, on va dire, du Ronaldinho du pauvre Néné, qui franchement m'étonne, parce que je pensais
enfin,
pas...
Enfin, retour en grâce, je suis pas d'accord, dans la mesure où à l'Espagnol, il avait été assez bon.
Ouais, justement. Mais à Monaco, il était parti comme le mec qui a du talent, mais qui est totalement gâché. Et c'était dû à la mauvaise gestion de son cas par Ricardo.
Mais tu vas me dire qu'en France, on n'a pas su utiliser un joueur? Non.
Non, mais en même temps, tu vois, c'était Ricardo, donc c'était un cas assez spécial. Et c'est vrai que quand j'ai vu que c'était Guy Lacombe qui revenait et que je me suis dit, Néné va se barrer tout de suite, quoi. En tout cas, ça correspond pas du tout. En tout cas, je pense au niveau du tempérament, etc. Je pensais que ça allait pas correspondre. Et puis finalement, Néné a trouve sa place en tout cas dans l'effectif monégasque. Et c'est tout. C'est au bénéfice du jeu de l'AS Monaco. 5 buts, je crois qu'il est à 5 buts ou 5 buts depuis le début de la saison. Donc en plus d'être influent dans le jeu, il est efficace. Donc voilà quoi, c'est tout bénéfice pour l'AS Monaco. On a aussi recruté un autre tout jeune et qui est tout bon. Bon, pour l'instant, il a plutôt été plus blessé que présent, c'est Coutador. Mais ça, je pense qu'il va falloir le surveiller de près parce que c'est aussi quelqu'un, et ça c'est une notion qui te tient à cœur, Marvolo, qui a du potentiel. Coutador a du potentiel.
Alors... Non, juste, je reviens toujours à cette histoire de potentiel. Si tu veux la différence entre le potentiel en France et dans les autres pays, c'est que si tu as du potentiel, on dit que tu as du potentiel à partir du moment que tu es bon. Coutador est bon, donc ça marche dire qu'il a du potentiel. Moi, je parle plus des joueurs comme Ben Arfa qui font pas grand chose, mais on parle tout le temps du potentiel comme si du jour au lendemain, il allait. Un peu comme dans Shrek, hein, il allait devenir un beau cheval de course alors que c'est un âne. Ben non, ça marche pas.
Alors qu'est-ce qu'il a?
Tout à l'heure, je suis d'accord avec toi.
Mais alors pour Bernard Fa, comment tu le qualifies? Tu dis pas qu'il a du potentiel, tu dis qu'il a quoi? Qu'il a des possibilités, mais c'est un peu la même chose. Enfin, je sais pas.
Non, c'est un tripoteur de ballon pour l'instant, c'est tout. C'est pas spécialement un joueur de foot.
Ah mais quand tu lis par exemple, j'ai lu un truc, je crois que c'était dans SoFoot, que Nyang il dit qu'il aimerait bien avoir le quart du talent de Ben Arfa, ça veut quand même dire que voilà, que Ben Arfa, je vais pas dire qu'il a du potentiel, mais bon, ça c'est un autre débat, mais voilà.
Bah après le talent, le potentiel, tout ça, moi je trouve que c'est souvent la façon de justifier les performances d'un chouchou, d'un jeune, très 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 souvent. Bah moi les mecs qui ont du potentiel, c'est pour te donner des monégas, Coutador, Pinot. Ça, c'est des mecs qui sont quand même bons. Ils sont déjà assez, suffisamment bons, si tu veux, pour qu'ils n'aient pas juste besoin de notion de... Ils ont du potentiel pour justifier leur statut de bon joueur de Ligue 1. Ben Arfa, à part le « il a du potentiel », il n'y a absolument rien pour justifier le fait que ce soit, entre guillemets, une star, parce que ses performances sur le terrain sont merdiques. Voilà la petite distinction. Mais comme tu l'as dit, Monaco, il y a des joueurs qui ont du potentiel.
Voilà, non, mais il y a des joueurs, surtout, qui ont du potentiel et qui, surtout, s'inscrivent dans la continuité. Et ça, vraiment, le meilleur des exemples, c'est quand même Park, hein, parce que Park, il est arrivé en... Voilà, il a dû se faire un nom en Ligue 1, et franchement, pour moi, à l'heure actuelle, c'est l'un des tout meilleurs joueurs offensifs, en tout cas attaquants de la Ligue 1. Quand on voit ce qu'il est capable de faire, il a un gabarit qui est pas forcément très impressionnant, je crois qu'il fait 1m80 et quelques, et le gars, je me souviens du match contre le Paris Saint-Germain, il prenait tous les ballons de la tête, alors que derrière, c'était quand même c'était du Bourillon, mais c'était aussi du Traoré, donc c'était grand, quoi. Et le mec chipait tous les ballons de la tête.
En même temps, on parlait tout à l'heure de Bourrin à Marseille, Bourillon, Traoré, on est encore en plein de temps, quoi.
Non, mais voilà, mais je te parlais des ballons pris de la tête, et puis même techniquement, et puis à la finition, c'est lui qui marque le but contre le PSG qui fait 1-0. Contre Marseille, tu vois, il a une occasion très franche, il la met, quoi, alors que voilà, il y a des joueurs, genre Cissé, il aurait mis une mine sur le gardien, lui, tu vois, il place bien la balle. Donc voilà, quoi, il y a plein de motifs de satisfaction à l'AS Monaco. Donc il y a vraiment, on va redire cette notion, mais il y a vraiment de quoi faire une bonne saison, cette saison du côté de Monaco. Mais c'est clair qu'il va falloir quand même, c'est quand même un effectif relativement assez jeune à Monaco. Et donc c'est clair qu'il va falloir un peu plus de constance dans les performances, parce qu'il faut pas oublier qu'avant la victoire face à l'OM, on avait perdu contre Saint-Etienne à Monaco. Et je crois que Lacombe avait dit à la fin du match, ouais, les joueurs pensaient déjà avoir gagné avant de jouer le match. Donc voilà, j'espère que les joueurs ils vont rester humbles. Et voilà, quoi, et qu'ils vont faire une bonne saison, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Avec un Ruffier qui, pour moi, même s'il a été un peu mis sous les feux des projecteurs suite à sa performance face à Marseille, mais pour moi, c'est un des tout meilleurs gardiens de France. Après, on s'en fout du débat, est-ce qu'il devrait être en équipe de France ou pas, etc. Mais pour moi, c'est vraiment un des tout meilleurs et c'est un futur grand, quoi.
Ben, en France, en même temps, s'il y a un poste où vous n'avez pas trop à vous plaindre, c'est quand même les gardiens. Tu prends Lloris, Mandanda, Duchez, Ruffier, je te prends pas forcément les plus jeunes ou les mecs qui sont les petites stars en France, mais un mec comme Duchez, putain, c'est un super gardien. Ruffier, c'est pareil. Tu peux en prendre plein encore. Coupé au PSG, c'est un bon gardien. Il y a même un Carasso. Richer, quand il fait pas le con, c'est un bon gardien. Pelé aussi. Donc il y a quand même beaucoup de bons gardiens. Non, mais c'est ça, il y a vraiment beaucoup de bons gardiens. Mais bon, après, la question de savoir si Ruffier, où se situe Ruffier, il a quand même l'avantage.
Après, ça reste subjectif, hein. Quand on sait même pas faire. Mais...
Et puis surtout, il a l'avantage, lui, comme.
La différence entre Lloris et Mandanda, tu vois, après, faire la différence. Enfin voilà, c'est toujours difficile de juger des performances sur ce poste de gardien, quoi. Si ce n'est aux arrêts. Mais maintenant, j'ai l'impression que les arrêts, ça c'est un peu. Enfin, je sais pas. Maintenant, j'ai l'impression qu'on s'exclame sur des arrêts alors que les mecs ont tiré sur les gardiens, etc. C'est vraiment ça, quand même.
Ouais, ça c'est toujours pareil. C'est de voir si quel est le. Ou plutôt, c'est un peu comme, je sais pas si vous avez vu l'action, l'arrêt de Casillas qui a fait le tour de Facebook, qui a fait le tour du monde limite, ou l'arrêt sur Perotti. Là, c'est pareil. Un arrêt à 2 mètres de. Quand le joueur est à 2 mètres de la ligne, pour moi, c'est toujours une faute du gardien. C'est toujours une faute du joueur. Ce sera jamais un arrêt du gardien. Mais jamais, quand tu as 2 mètres des buts et que tu reçois le ballon, si tu la rates, c'est toujours toi qui la rates d'abord. Et puis là, c'est pareil. Mais Ruffier, l'avantage, là, c'est pareil. Hein. Il a du potentiel. Il est déjà bon. Et évidemment, il peut progresser. Il a quoi ? Il a 21 ans, c'est ça ?
Non, je crois qu'il a 23. Je crois qu'il a déjà 23 ans.
23, ça reste quand même très jeune pour un gardien. Donc il a encore 12-13 ans de carrière pro. Puis il a le temps de faire de belles choses. Peut-être même d'être en équipe de France au gré des blessures, ou s'il explose, ou quoi que ce soit. Mais bon, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de bonnes choses à Monaco. Mais après, faut pas oublier que les dernières années, Monaco était capable de battre n'importe qui, de perdre contre n'importe qui. Là, j'attends juste de voir s'ils sont capables d'avoir une certaine régularité. Là, j'en suis nettement moins sûr.
Ah bah de toute façon, c'est clair que c'était le problème un peu que je soulignais du fait de la relative inexpérience dans l'ensemble du groupe. Après, on peut quand même compter sur un entraîneur, même si je le porte pas forcément dans mon cœur, mais je pense que Guy Lacombe, il a l'expérience de la Ligue 1, donc je pense qu'il sera capable. Et puis c'est vraiment Guy Lacombe, c'est vraiment un mec qui s'est quand même spécialisé. Le fait qu'il encadre pas mal les jeunes joueurs, je pense à Fro et Pedretti à Sochaux, et j'aurais d'autres exemples à citer dans d'autres clubs, mais voilà quoi. Donc là, c'est vraiment, je pense, un effectif qui lui convient bien et qui sait bien l'entraîner. Donc voilà, je croise un peu les doigts pour la suite de la saison de Monaco. Sinon, une réaction qu'il y avait sur le forum, donc apparemment, il faut la Ligue. Donc la seule réaction du soir d'un modo en plus, donc El Carolo qui dit qu'il écoute le débat et franchement il n'avait jamais écouté et que la qualité est très bonne, le débat est bon et je vous réécouterai. C'est très gentil à lui de faire cette remarque. Donc voilà, on a fait un peu le tour de la Ligue 1. Après, je sais pas si toi Marvolo tu voulais intervenir un peu sur l'actualité dans ton championnat favori, l'Espagne. Je sais pas, Cristiano Ronaldo qui a l'air véritablement d'être touché par le sort, hein. La poupée vaudou de Paris Hilton, je crois qu'elle marche vraiment.
La poupée vaudou d'Hilton, je suis pas sûr, à moins que la poupée vaudou s'appelle Diawara. Voilà,
c'est pas faux.
Ce qui ferait, mais ce qui ferait, je dirais,
c'est plus grave que prévu.
Quand t'es blessé, que tu rejoues une semaine après, ouais, même infiltré, tu te reblesses. C'est tout con, c'est une règle élémentaire de la médecine, mais bon. Au Real, c'est pas comme s'il comprenait quelque chose là-dessus, hein, mais... On reviendra pas là-dessus.
C'était parce que c'était quand même un match décisif pour le Portugal, mais je pense que sans Cristiano, Portugal aurait quand même réussi à taper la Hongrie. Mais bon, ça, c'est qu'un avis personnel. Donc voilà, je sais pas si tu veux parler de s'il y a une actu que tu veux développer en Liga ou dans un autre truc, parce que sinon, je pense qu'on va clôturer là.
Non, il y a pas de grosses nouveautés en Espagne. Faut savoir que quand la sélection joue la Roja, ils parlent que de ça, donc vivement que ça s'arrête quand même.
Voilà.
Pas l'émission, donc, évidemment.
De quoi?
J'ai dit évidemment pas l'émission, mais que ça s'arrête un petit peu le délire autour de la Roja.
Pourquoi tu dis ça? Parce que là, ouais, non, mais
j'en parle tout le temps, matin, midi, soir. J'ai limite à des vidéos où tu vois Marchena, je crois que c'est évident, quoi. Donc,
Ouais, mais est-ce que tu penses que justement ça peut pas faire un remake, un remake un peu copier-coller de l'équipe de France Coupe du Monde 2002? Justement, j'ai l'impression que l'Espagne vont arriver à la Coupe du Monde en ultra favori et qu'il y aura quand même une certaine pression populaire assez énorme. En tout cas, c'est vraiment eux les favoris de la compète. Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à gérer ça? Voilà, quoi.
Non, non. On n'est pas favori à un mondial sans l'avoir jamais gagné. Et encore moins quand on a disputé qu'une seule fois les demi-finales il y a très 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 longtemps.
Non, mais sur la forme du moment, en tout cas sur les dernières prestations, c'est quand même eux qu'on fait la meilleure impression, je pense.
Dans la mesure où c'est jamais le favori qui gagne la Coupe du Monde, ça m'arrange, si tu veux.
Donc en fait, j'ai l'impression que t'as pas envie de voir l'Espagne gagner.
Non, mais je n'ai pas envie et ils ne gagneront pas. Ça, j'en suis certain aussi, de toute façon.
Bah c'est vrai que de toute façon c'est toujours relativement difficile d'assumer son statut de favori, mais bon, après peut-être un avantage aux pays hôtes, l'Afrique du Sud, hein, on sait jamais. Donc voilà. Donc voilà, bah je pense que l'émission touche à sa fin. Donc merci Edouard pour ta participation. Si tu ne dors pas.
Mais de rien.
Merci aussi Marvolo pour avoir participé à la fin de l'émission.
Bisous.
Voilà, et puis merci aussi à Adrien, enfin à Pedro pour le forum d'avoir aussi participé, à Roméo pour avoir animé une à Yous, hein, bien sûr, pour avoir participé à une grande partie de l'émission, pour l'avoir animé. Voilà, donc très sympa de faire cette émission, et donc à bientôt sur Génération Soccer pour une nouvelle émission.